Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, notre collaboratrice Catherine Stassin est avec nous. Son sujet, la dépression chez les aînés. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène de son sujet « Pourquoi jure-t-on? » Notre invité en début de deuxième demi est Simon Riendeau-Brouillard. Il est étudiant à la maîtrise en santé mentale et nous parle de son parcours de vie. On commence en chanson avec Vanessa Paradis. La chanson s'intitule « Bouquet final ». Bienvenue chez nous.
Juste retour des choses comme une overdose, mais c'est le bouquet final. Mais c'est le bouquet final. J'avoue, je les ai attendus longtemps, mais les fleurs ne parlent qu'au présent. Les regrets n'aiment pas. Tu peux leur faire dire tout ce que tu veux. Sur la carte qui c'est l'encre bleue, me dis que tu n'aimes que moi. Le rouge et rouge sang, couleur des amants, mais c'est le bouquet final. C'est toujours bien de finir en beauté. Y'a le nom à perdre, ruban satiné. Sans vouloir jeter de fleurs, y'a mes sentiments tant j'aime et t'aimer. Et mon envie de te serrer, serrer. Tout y est mais plus le cœur. T'aimerais changer. Fais pas les choses à moitié, sans vouloir jeter des fleurs. Y'a comme une envie de te pardonner, de me faire pour toi belle à crever. Tout y est mais plus le cœur.
La santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur sujet.
J'accueille maintenant notre collaboratrice Catherine Stassin. Bonjour Catherine.
Bonjour Yvon.
Aujourd'hui, ta chronique, la dépression des aînés.
Oui, c'est
oui,
pas drôle.
Malheureusement, ça. Non, effectivement, il y a des dépressions à tous âges, mais chez les aînés, effectivement, ça peut être encore plus difficile, je dirais.
Oui, mais on va tout de suite remonter le moral à tout le monde et dire que c'est vieillir, c'est pas inévitable d'avoir une dépression.
Non, c'est sûr.
C'est inévitable.
C'est évitable.
Donc, vieillir ne déprime pas.
Non,
d'accord?
Du tout. Là. Mais il y a des situations, il y a des enjeux qui sont vécus par les aînés, je pense, c'est ça que tu veux parler.
Exactement. On va dire que, quand même, on va donner deux, trois petits chiffres pour voir si, dans le fond, c'est quelque chose de significatif ou pas.
Ouais.
Mais quand même... on va se dire que les gens qui ont vraiment une dépression grave et qui sont des aînés, on va faire très très attention parce que ça va aggraver, s'ils ont une dépression grave, majeure, 2 à 3 fois le risque de décès chez les personnes âgées. Ouais. Donc on parle de personnes âgées à partir de 60 ans.
Ça les affecte, ben toujours 60 ans, je trouve que c'est exagère un petit peu.
Que,
c'est comme quand ils nous disent que les X et, je sais pas, les baby boomers vont jusqu'en 65, je suis pas d'accord.
Ah, écoute, c'est comme ça que les statistiques parlent, comme ça qu'ils disent.
Mais tu sais, 60 ans, là, je m'excuse, le 60, c'est comme le 40 d'autrefois. Fait que, personne
on peut
âgée,
dire ça, mais bon.
Pas d'accord.
On peut faire des commentaires non scientifiques tout à fait valables.
Ouais. Mais disons que pour la forme, on va dire que c'est 60.
Voilà,
on est pas d'accord.
Pour nos chiffres. Et... ce qui est moins drôle, c'est que c'est le facteur le plus important associé au suicide à cet âge-là.
Ah bon?
C'est, voilà. Donc, on va faire très attention à ça et on va être attentif aux symptômes. Et ces symptômes, eh ben, c'est pas tout à fait les symptômes d'une personne à l'âge adulte ou adolescente ou jeune adulte. Alors, les symptômes de manière générale, hein, on parle souvent... dans une dépression, de perte d'énergie, on perd de l'intérêt, du plaisir dans les activités, etc. Mais pour les personnes d'âge bien mûr, les personnes âgées, on va parler plutôt que c'est une prédominance des symptômes psychosomatiques. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment les plus importants. On va avoir des douleurs inexpliquées. Les gens vont retourner chez le médecin et dire... oui, mais vraiment, j'ai mal à la tête, c'est pas possible, il se passe quelque chose. Ou j'oublie tout le temps ceci, j'oublie tout le temps cela, même si c'est pas gravé de si, mais qu'ils pensent peut-être avoir autre chose. Ou ils ont des vomissements, mais de nature psychosomatique.
Ou
donc,
des douleurs ici et là.
Tout à fait.
Mais qui sont psychosomatiques, c'est ça, qui sont pas. Voilà. Après examen, on trouve rien, j'imagine.
Mais
c'est ça.
Elle dit j'ai mal, la personne, mais elle ne va pas dire je suis déprimée.
Ouais.
Elle ne vient pas chez le médecin ou elle ne dit pas aux amis je suis déprimée.
Ouais.
Elle a mal partout, c'est tout. Ou elle a mal.
Peut-être qu'elle ne comprend pas elle-même qu'elle est en dépression.
Aussi, c'est possible. Ça dépend du niveau d'éducation, la psychologie aussi, des fois. Et puis même, des fois, on n'est pas prêt à identifier. Ce dont on souffre, parce qu'on est les premiers concernés.
Il y a des tabous. On a beau dire qu'on parle de la santé mentale plus que jamais, mais il y a des tabous encore. Il y a des gens que, pour toutes sortes de raisons, ils trouvent ça très tabou, la santé mentale, la dépression. Donc, ça reste à expliquer encore.
Oui,
là.
Oui. Et puis, on s'attend aussi un petit peu à ce que la personne âgée soit... Elle a vécu une grande partie de sa vie déjà. Elle peut se réjouir de si. Des fois, elle ne travaille plus. Hein, il y en a qui ils sont à la retraite. Ils ont des activités, des loisirs. Dans le fond, ils sont chanceux. Ils devraient être de bonne humeur, etc.
Oui, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Même que la personne qui a la plus belle situation de vie,
voilà.
Si elle fait une dépression, elle va se trouver dans un mauvais état. Hein.
Voilà, aussi, on peut dire, oh, bah, tu sais, elle a un conjoint ou il a un conjoint. Tout doit bien aller, dans le fond.
C'est ça, mais c'est pour ça qu'il y a des mythes là-dedans, puis il y a des mauvaises compréhensions de la situation. Ouais. Là.
Bon, où on peut se consoler, c'est que les cas de dépression majeure chez les personnes âgées, c'est 3 à 5 %. Donc, il y a des gens qui sont plus à risque. Hein. C'est des gens qui ont une maladie chronique, des gens qui vont attraper une maladie chronique qui va s'empirer peut-être avec la vieillesse. Je peux parler que ce soit du diabète ou autre chose. Les gens qui sont dans un établissement de soins de longue durée, CHSLD, ça, c'est un facteur aggravant, malheureusement. Et des gens qui sont eux-mêmes personnes âgées, mais qui vont aussi s'occuper encore... moi, j'ai une voisine qui s'occupe de sa mère, qui a passé 90 ans et... elle est retraitée aussi, donc elle ne profite pas de sa retraite. Elle est tout le temps à s'occuper de sa mère, atteinte de début de démence.
Et beaucoup de gens, plus qu'on pense, prennent leur retraite, pas nécessairement pour la couler douce, mais pour s'occuper justement de quelqu'un, parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont pas capables de conjuguer travail et ça en même temps. Hein.
Quand ils ont cette possibilité, là où en tout cas ils se la donnent, même si la retraite n'est pas toujours, le montant n'est pas encore terrible, des fois on n'a pas le choix en effet que de faire ce choix.
Pour se concentrer sur ça, là, sur l'aide. Là.
Mais bon, alors maintenant on en arrive un petit peu aux facteurs à risque, hein, parce que là j'ai parlé un petit peu des types de les pourcentages, mais le plus grand des facteurs de risque, c'est l'isolement social. Alors, quand on a 60 ans, on est à risque. Pourquoi ? Ben parce que les enfants ont quitté la maison, si on a eu des enfants. L'éloignement des petits-enfants. Et si on n'a pas eu d'enfants, eh bien, peut-être que nos amis sont occupés avec leurs petits-enfants ou autre chose. Et ils n'ont pas de temps pour nous. Donc, on perd aussi progressivement les proches. Moi, je le vois pour ma mère qui a plus de 90 ans. Le plus difficile, vraiment, c'est qu'ils ont perdu ou ils perdent leurs derniers amis, en fait, quand on vit aussi vieux.
Ça devient déprimant,
ça aussi. C'est très difficile à vivre.
Les gens de leur âge qui partent un après l'autre, là, ça devient déprimant un petit peu.
Oui, et puis, ce que j'ai remarqué, ce qui faisait quelque chose aussi, moi, c'est que quand une vedette connue de leur âge mourait, en fait, c'était quelque chose qui marque ma mère, en tout cas, là, quand il y a des gens importants qui décèdent, parce qu'ils s'identifiaient, donc c'était leur génération, etc. Ils se disent, oh tiens, là, c'est mon tour, là, c'est à moi, etc.
Mais ça nous arrive, ça, à tout le monde, pas mal. Oui. Les gens qui étaient légèrement plus vieux que nous quand on était plus jeunes, puis là, ils meurent. Donc, tu te dis, OK. Il y en a qui meurent prématurément, mais il y en a qui meurent aussi à un âge avancé. Donc,
Mais bon, il en vient à un moment donné où en fait, vos proches ont tous disparu. En fait, vos frères et sœurs, si vous aviez une fratrie.
C'est ça.
Les amis. Les amis et même les connaissances. Donc, ça devient difficile. Vous êtes vraiment seul.
Oui, absolument.
Et bon, en plus de ça, l'autre facteur, c'est la fracture numérique. Alors, tous les gens ne sont pas éduqués à Internet et tout le monde ne veut pas l'être non plus. Donc, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'activités qui sont affichées, ne fût-ce que là. Dans le temps, c'était du bouche à oreille, où les gens allaient à l'église aussi, dans le temps, et il se passait le mot, on va jouer au bingo, on va jouer aux cartes tel jour, ou on va se promener, viens, etc. Maintenant, il faut vraiment être proactif pour aller chercher l'activité. D'accord ? Donc, si vous n'allez pas sur Internet, il faut aller sur un babillard, faut être et encore, c'est pas toujours affiché.
C'est ça, parce que les papiers, avant ça, on recevait toutes sortes de choses. Il y en a encore.
Dans la boîte aux lettres, mais c'est la fin, maintenant.
C'est ça. Maintenant, on est presque obligé d'avoir accès à Internet. Puis je peux comprendre les gens qui n'ont jamais vécu ça, puis sont un petit peu réticents, en fait.
Moi, je les comprends tout à fait. Ils ont vécu tellement de changements qu'ils n'ont plus envie. Moi, j'en connais même des plus jeunes qui ne sont pas capables, qui ne veulent pas. Ils sont même nos rendez-vous sur Clic Santé. Tout ça, ça doit être fait. On vous prend un peu pour un extraterrestre. Si vous vous pointez et vous demandez, je peux réserver un rendez-vous, quoi. Madame, allez voir sur. Mais quand on dit ça à une personne âgée, c'est un peu dur.
Ça se peut qu'elle n'ait pas. J'en connais, moi aussi, je connais des gens qui ont juste un téléphone, tu sais, puis qui n'ont pas de courriel, ils n'ont rien. J'en connais. Puis c'est correct, hein? C'est un choix.
C'est un choix, mais la personne âgée, ça va l'isoler encore plus pour les démarches administratives. Et Dieu sait si on a à cet âge-là pour les médicaments, pour trouver des activités, les médecins, etc. Donc ça donne un sentiment d'exclusion, sans parler de l'âgisme. J'ai déjà parlé de l'âgisme, mais vraiment, il y a un jugement par rapport aux personnes âgées. Or, les personnes âgées ont autant leur place, elles ont autant leur capacité que n'importe qui d'autre et autant accès aux soins. Mais il y a un petit peu cette mentalité, il est vieux, il se fait encore opérer, il est vieux. Et je trouve ça assez choquant parce que dans le fond, ces personnes sont là, elles sont vivantes.
Mais il y a de la prévention à faire, des bonnes nouvelles là-dessus. On peut prévenir ça. Comment peut-on prévenir?
On peut prévenir en faisant diverses choses.
Oui.
Et notamment, on peut d'abord stimuler son cerveau. Donc, en stimulant son cerveau, on parle de quoi? C'est bien sympa, des lectures, jeux, mots croisés, sudoku. Je ne sais pas ce que t'aimes comme genre de truc.
Oui, j'aime pas ça, sudoku, mais il y a d'autres trucs.
Il y a plein de jeux en ligne aussi, désolé, mais des jeux gratuits qu'on peut faire, où vous allez chercher simplement un casse-tête à la bibliothèque.
Ouais.
Il y a plein de jeux à la bibliothèque gratuits. Donc, je vous invite à aller dans vos bibliothèques respectives chercher ça.
Dès qu'on fait travailler le cerveau un peu, même apprendre de la musique.
Ça, c'est excellent, j'en ai pas parlé.
Mais mémoriser des choses, il y a toutes sortes de trucs.
C'est excellent, la musique, pour ça, parce que vraiment, ça fait croiser...
ça change les idées aussi.
Bonne idée, voilà. Au niveau physique, on doit absolument, si on a on pense avoir un problème de auditif ou visuel. Et des fois, on dit, oh, je dois changer de lunettes, oh, j'entends pas bien, mais je vais pas aller à telle réunion parce que j'entends pas bien.
Ouais.
Et donc, ça vous isole encore plus. Donc, c'est vraiment important d'aller voir si on a besoin d'une prothèse auditive, de changer de lunettes, etc., pour pas s'isoler encore plus. Oui, oui, ça arrive vite.
Ouais, ouais.
Soigner ses dents. Pour garder le goût de manger tout ce qu'on veut et pas se dire « Oh ben non, je ne mange plus de baguettes ou je ne mange plus de steak. »
Croquer dans la vie, comme on dit, croquer.
Croquer dans la bouffe aussi.
Et dans la bouffe. Ouais.
Et puis aller marcher, faites des activités à votre hauteur physique, entre guillemets, je veux dire, ce dont vous êtes capable, même si vous faites du yoga sur une chaise, ça se pratique beaucoup en CHSLD ou dans des maisons de retraite, faites une activité physique, ça va vous aider à maintenir et votre physique et votre cerveau. Et bien vieillir, ça vieillir en santé, c'est possible.
Et si je peux me permettre, je ne sais pas si tu as trouvé ça, mais peut-être aller voir des gens de d'autres âges que le nôtre. Hein. De ne pas rester confiné avec des jeunes de notre âge.
C'est une bonne idée. T'sais, des plus jeunes. C'était ma dernière suggestion. Hein?
Ah, OK, tu l'avais. Je te demande. Désolé.
Voilà, en fait, c'est tout simplement le maintien aussi. Donc, on a le cérébral, le physique et le maintien des liens sociaux parce que nous sommes des animaux sociaux, les êtres humains.
Ouais.
Et donc, il faut continuer dans un club, que ce soit des mots croisés ou un club de fléchettes ou du séco, ou du sport, des langues. Gardez le contact avec les enfants et petits-enfants. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez...
Vous pouvez en emprunter, presque.
Ou faire du volontariat. Les CHUM acceptent les gens qui bercent les bébés, qui font des visites aux gens, pas que les personnes âgées.
Oui, ça peut aider. C'est déjà tout le temps, Catherine. Merci beaucoup. C'était fort intéressant. Des références, comme d'habitude, tu nous amènes toujours plein de références. Les gens qui veulent aller lire ça sur notre site web, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie douce, sur ta chronique, en fait, de Catherine, qui est la dépression des aînés. Merci beaucoup et à la prochaine.
Merci, Yvan.
Au revoir.
Au revoir, tout le monde.
De toute façon, même quand je dors pas, moi, je rêve de toi. Sous les lumières, ce soir tu l'as devine.
Folie Douce est aussi présent sur Instagram. Cherchez Folie Douce Radio et venez nous voir.
C'est maintenant le moment de ton espresso, Pierre. Donc aujourd'hui, la question, pourquoi jure-t-on? Ou pourquoi sacre-t-on, si on veut dire?
Oui, sacre-t-on, oui, on peut. Ici, il s'agit de jurer, mais dans le sens, pas dans le sens de quand on va à la cour et qu'on dit « je le jure ».
Plus dans le sens de sacrer.
Exactement. Et j'ai trouvé un article qui est très intéressant là-dessus, mais je vais quand même commencer par...
Par un sac, j'espère.
Non,
quand même.
Je vais me retenir. Mais je vais vous dire qu'est-ce qu'on donne comme définition sur le fameux site Wikipédia. Parce que des fois, c'est toujours intéressant de voir quelle définition on donne à telle ou telle chose. Alors, sur le site Wikipédia, on nous dit « un juron est une brève exclamation plus ou moins grossière, vulgaire ou blasphématoire dont on se sert pour donner une intensité particulière à un discours, que cela soit pour exprimer ce qu'on ressent face à une situation donnée, pour manifester sa colère, son indignation ou sa surprise. Dans ce dernier cas, il fera office d'interjection. Ou encore, peut-être pour donner de manière générale plus de force à un propos. Un juron peut éventuellement être interprété comme une insulte selon les circonstances dans lesquelles il est proféré. Cependant, de façon générale, le juron est une réaction devant une situation. Il ne vise pas, en principe, un destinataire particulier. On nous dit aussi sur le site Wikipédia la formation. Les jurons ne sont pas des mots neutres relativement au reste du vocabulaire. Il s'agit généralement de mots interdits ou faisant référence à des choses ou des actes interdits, cachés ou non moraux. En anthropologie et en psychologie, les jurons et gros mots relèvent de l'obsession primale de la population dans laquelle ils ont cours. Les jurons sont donc fortement connotés culturellement et varient selon la société concernée et ses inhibitions. Dans les sociétés humaines, on peut généralement noter les jurons liés aux éléments suivants. Il y a deux grandes catégories. Il y a les animaux. Le juron préféré de Socrate était par le chien et se rapporte au dieu égyptien Anubis. Plus proche de l'insulte, Hélène est qualifiée plusieurs fois de chienne. Le médisant des caractères de Théophraste utilise également le chien pour caricaturer une femme qu'il sous-entend être une prostituée. Et l'autre catégorie, c'est le corps et les fonctions corporelles. Il s'agit ici des parties du corps honteuses, ou en tout cas, en principe, cachées ou de fonctions corporelles de même nature, comme les mots « mère de foutre » et tout le domaine de scatologie en héritage de nos ancêtres, les grands singes, qui urinent et font défécation en dérision pour insulter l'autre, ce que j'ignorais. Mais on ne ferait pas ça dans la vraie vie, je pense.
Non, bien sûrement pas. Mais ce que tu dis, c'est intéressant par rapport au milieu, parce qu'ici, quand les gens sacrent, c'est souvent les mots qui sont originaires de l'Église.
Oui. Fait que au Québec, oui. Oui,
fait que c'est pour ça que ça dit les sociétés, les jurons sont influencés par le milieu, mais effectivement...
Oui, mais je vais y arriver tantôt,
ici, je peux comprendre que c'est ça qui...
Ouais. Oui, ici, là, mais c'est très général, mais je vais y arriver au Québec, tu vas voir. Ouais. Et en terminant sur Wikipédia, on nous dit « la sexualité ou les organes sexuels constituent quasiment un domaine à part, tellement est large le vocabulaire grossier et le nombre de jurons et d'insultes qui utilisent le domaine de la sexualité, que ce soit pour désigner un organe, un acte éventuellement considéré comme interdit ou déviant ou un autre non-dit en relation, comme par exemple les mots putain et bordel, l'honorabilité de la lignée maternelle y goûte aussi, comme par exemple pour les expressions fils de pute ou fils de chienne, etc. »
Et aux États-Unis, évidemment, le mot de quatre lettres commençant par F, c'est assez mal vu, on ne le dira pas, mais effectivement, c'est mal perçu là-bas. Non,
sûrement. Ouais. Et sûrement que dans toutes les langues à travers le monde, et ça ne doit pas être trop joli quand les gens se mettent à jurer. Alors, maintenant, dans un article que j'ai trouvé sur Internet, qui s'appelle « La petite histoire des sacres au Québec », c'est sur le site leverbe.com. C'est écrit par un monsieur du nom de Simon Lessard. Alors, ce monsieur Lessard nous dit « En 1968, Robert Charlebois, Yvon Deschamps et Louise Forestier lançaient l'Hostide Show. Pour ceux qui l'ignorent, ça s'écrivait O-S-S-T-I-D C-H-O-N-E, en un seul mot. À l'époque, sacrer publiquement brisait un tabou. Aujourd'hui, l'usage des mots sacrés dans l'espace public est devenu banal. D'où vient cette mauvaise habitude proprement québécoise de jurer avec des mots d'église? Serions-nous le plus religieux ou au contraire le plus mécréant de tous les peuples?
Ça a tellement été influencé, c'est ça, le Québec a tellement eu une omniprésence de la religion, c'est sûr que ça, c'est ça qui ressortait, là.
Oui, puis tu vas voir au fil de l'article, ce monsieur Lessard va nous en parler. Il nous dit « Si partout dans le monde on jure, le sacre québécois demeure un cas particulier. Dans le film « Bon cop, bad cop », une scène d'humour emblématique présente cette particularité de la belle province, alors qu'un policier québécois tente d'expliquer les subtilités des déclinaisons des sacres en verbes, adjectifs et substantifs à son collègue ontarien. L'origine des sacres du Québec est un mystère qui fascine et divise les spécialistes. Pour répondre à la question, les chercheurs doivent faire appel à l'histoire, à la linguistique, à la sociologie et à la psychologie. Surtout, ils doivent déterminer ce qui est unique au peuple québécois, ce qui peut expliquer cette marque distinctive.
Et c'est particulier que les jeunes, tu sais, à une certaine époque, les gens étaient plus pratiquants, là.
Mm-hmm.
C'est étonnant que certains jeunes continuent à s'acquérir alors qu'ils n'ont peut-être pas une grande relation avec la religion.
Oui, mais il faut croire que ça se transmet de génération en génération aussi. Alors, ce monsieur Lessard nous dit, « Puisque avant le 20e siècle, il était pratiquement impossible d'écrire de tels mots, les preuves manquent et les hypothèses divergent. L'opinion la plus répandue de nos jours est que nos sacres nous viennent de la Révolution tranquille. » Voulant contester le pouvoir de l'Église catholique, les Québécois se seraient mis à retourner contre elle ses mots les plus sacrés. Cette idée populaire n'explique toutefois pas pourquoi c'est seulement au Québec que le rejet d'une institution religieuse aurait engendré des jurons. Alors, je vais m'arrêter ici, Yvan, et je vais revenir sur le sujet plus tard. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de stock, si
ouais,
tu me permets
l'expression. On va écouter ça plus tard, effectivement. Pourquoi jure-t-on? Merci.
Vous êtes à Folie douce, parce que la santé mentale nous concerne tous.
Je suis maintenant en compagnie de Simon Riendeau-Brouillard. Bonjour Simon, bienvenue à l'émission.
Bonjour, merci.
Bonjour, bienvenue. Tu es étudiant à la maîtrise en santé mentale. On va parler de plein de choses. Surtout, je pense qu'on va parler de... Ça va donner espoir, je pense qu'on va entendre, parce que tu es quelqu'un qui est dynamique. Tu nous as contactés, puis je trouvais ton cheminement intéressant, puis je trouve que c'est intéressant de montrer des histoires de vie qui peuvent faire du sens, qui peuvent donner espoir aux gens. J'aimerais ça que tu me parles d'abord peut-être de ton parcours, puis de toi, en fait, pour qu'on te connaisse mieux, puis on va évidemment parler de plein d'autres sujets. Hein.
Moi, j'ai... dans ma vie, à traverser des moments où ma santé mentale était un enjeu dès que j'avais 18 ans. J'ai traîné pendant plusieurs années un embrouillement mental qui m'empêchait de progresser adéquatement. Malgré que j'étais fonctionnel, on peut pas dire que j'atteignais un plein potentiel comme on va décrire que je peux faire actuellement.
Comme tu t'aurais souhaité. Probablement que tu te voyais faire des choses, mais tu n'y arrivais pas.
Oui, mes projets n'arrivaient jamais à rien. Ben, ou presque rien. C'était toujours très de base. J'ai intégré certains emplois, puis ça fonctionnait pas nécessairement à cause de mon organisation mentale. Et puis, j'ai poursuivi certaines études. Je me suis cherché professionnellement énormément. On a parlé de sécurité militaire, d'intervention psychosociale comme intervenant en santé mentale pendant quelques temps. Ensuite de ça, j'ai tenté ma chance dans le transport de personnes puis de marchandises, ce qui n'est pas vraiment fait pour moi tant qu'à moi, mais que j'ai apprécié toutes les expériences. Dans l'ensemble, ce que j'ai le plus retenu, c'était vraiment ma passion pour la psychologie. J'ai acheté mon premier livre de psycho à 18 ans, La psychologie pour les nuls. Et puis, Aujourd'hui, j'ai une bibliothèque pleine de livres. C'est un investissement pour moi, la littérature.
Tu voulais mieux comprendre la santé mentale parce que, comme tu disais tantôt, bon, autour de 18 ans, ça a commencé à aller un petit peu moins bien. Est-ce que ça faisait longtemps? Peut-être que, est-ce que ça s'est comme déclenché? Est-ce que c'est comme une période difficile qui a vraiment commencé là ou précédemment, il y avait quand même des problématiques?
Sans vouloir sortir les grands termes, là, avant le déclenchement d'une maladie psychotique, il y a une phase qu'on appelle prodémique, si je ne me trompe pas pour le terme, là, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a une période où on se sent moins bien avant le déclenchement intégral de la maladie. Et puis par la suite, la plupart du temps, il y a une phase plus instable où les symptômes sont plus aigus pour ensuite atteindre un plateau où on devient dans un état où on nécessite des soins.
Et moins fonctionnel aussi, là, c'est ça?
Effectivement, c'est quand on évalue une personne, c'est son fonctionnement, c'est l'atteinte au fonctionnement. Si, en ce moment, l'auditeur qui m'écoute se pose des questions sur lui ou sur la santé mentale autour de lui, d'une personne, l'importance dans la vie, c'est de fonctionner. Que ce soit biologiquement, c'est-à-dire est-ce que physiquement on se sent bien, est-ce que psychologiquement on se sent bien, est-ce que socialement, dans une approche intégrale, on participe à la communauté puis on a des échanges.
C'est aussi simple que ça pour vivre une vie relativement équilibrée, c'est ça. Il faut avoir un peu des points que tu viens de mentionner. Est-ce que tu as eu un ou plusieurs diagnostics à l'époque? Est-ce que ça a changé?
Je dirais que c'est scandaleux à quel point... le nombre d'évaluations psychiatriques que j'ai suivies.
Ouais.
Et puis, j'en suis venu à m'intéresser aux erreurs médicales, justement.
Okay.
Pas seulement aux erreurs psychiatriques, c'est un volet, mais ils ont alterné plusieurs diagnostics. Je dirais que le mode de fonctionnement psychiatrique reste à éprouver, surtout dans la relation patient-psychiatre.
Ouais.
Ça a été un gros enjeu de faire confiance aux psychiatres. C'est normal parce que la réputation de la psychiatrie est pas tellement reluisante.
Parce que souvent, en sachant quelle sorte de diagnostic on a, on peut au moins chercher, fouiller, puis essayer de se comprendre. Est-ce qu'on est vraiment ce diagnostic? On n'est pas un diagnostic, on est une personne, là, d'abord. Là. On n'est pas une maladie, ça a été dit. Là. Il y a une phrase célèbre qui a été dite déjà. On est plus qu'une maladie, on est d'abord une personne. Là.
La maladie fait partie de nous. La différence, c'est que certaines personnes ont des troubles de personnalité puis d'autres des maladies. Le trouble de personnalité, c'est que la maladie, elle s'en ira pas. Il va falloir que vous déclenchiez des stratégies puis vous mainteniez des situations où vous copez, c'est-à-dire que vous trouvez des alternatives à vos comportements puis vos attributions mentales.
Ouais.
Tandis que quelqu'un qui a une pathologie comme moi, ou comme n'importe qui a une psychopathologie, il y a un exemple de rémission qui est possible.
Ouais. Est-ce que tu parlais tantôt, ça arrive, il y a certaines maladies qui arrivent souvent, justement, fin de l'âge adolescent, début adulte. On en connaît plusieurs, là, des maladies qui se déclenchent à ce moment-là. Quand est-ce que tu pourrais dire que ça a commencé à mieux aller pour toi? Parce que là, actuellement, tu as... Je pense qu'à l'âge que tu me disais.
Je suis rendu à 41
c'est
ans.
C'est ça. Puis là, on part de 18 ans jusqu'à aujourd'hui. Dirais-tu qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un moment où ça s'est mis à mieux aller?
Il y a eu des phases de stabilité, de pseudo-stabilité où j'étais pas complètement en rémission sans le savoir parce que la symptomatologie était pas complètement partie. J'avais des comportements moteurs désorganisés parfois. J'étais pas tellement apte à vivre une vie adéquate. Mon fonctionnement a toujours été altéré.
Okay.
Mais jamais ce que je pensais que je fonctionnais. On me regardait autour de moi, on disait « Tu vas bien, tu fais ce que tu as à faire. » Mais ce que je savais pas, c'est qu'il y aurait une période encore plus difficile qui s'en venait quand il y a eu l'éclosion d'un deuxième diagnostic suite à un traumatisme
okay.
Dans un milieu de travail. J'ai été victime énormément au travers de tout ça, d'intimidation sociale, de stigma social. Je pense que c'est le plus difficile quand on a une maladie mentale, c'est de faire face au stigma social. Puis ça, ça se fait pas sans prendre confiance en soi. Puis quand on est adolescent, puis on commence à avoir un trouble de santé mentale, la confiance en soi est plus ou moins... bien phasé avec la réalité. Ce qui se passe, c'est que vous apprenez à vivre avec tout ça, le soutien social qui est nécessaire, qui est à tout prix.
Nos proches aussi, c'est important, proches, là, nos amis, notre famille.
Tout est là, mais là, dans le soutien social, dans les facteurs sociaux, ils rentrent les facteurs économiques. Faut pas oublier ça.
Ouais.
Puis avoir un trouble de santé mentale, c'est pas partir premier sur la ligne de départ pour faire beaucoup d'argent dans la vie.
C'est ça, on part déjà avec certaines problématiques, puis faut se battre encore plus, mais c'est bien que ton cheminement, on disait tantôt dans la présentation, t'es quand même étudiant à la maîtrise en santé mentale, tu sais, c'est quand même pas rien, là. Fait que t'as eu de la détermination pour faire des études puis arriver à cette étape-là, là.
En 2013, j'ai décidé que je changeais ma vie. J'ai changé mon apparence physique. Je me suis mis en shape. Excusez l'anglicisme. Je me suis mis en forme.
Ouais.
Mais dans un langage de gym, tu sais, je me suis mis vraiment en forme.
Tu voulais avoir à la fois de la santé physique et mentale. Dans le fond,
je faisais de la compétition de bodybuilding.
Okay.
Puis j'ai décidé de retourner aux études en même temps suite à une situation, un des enjeux au niveau familial. Une séparation, les enfants et tout, pour ensuite reprendre le chemin de l'université. Puis j'avais comme but de devenir psychologue. Puis il y a toujours eu des gens autour de moi qui doutaient, qui disaient « Simon, trouve-toi un plan B, Simon, trouve ci, Simon, trouve ça. » Ça fonctionnait pas, j'avais pas une moyenne adéquate. Puis les solutions viennent parfois tardivement, mais sûrement. Ce que je cherchais en 2016 en allant consulter, parce que j'ai consulté pour d'autres choses que de la psychiatrie, j'ai consulté en aide pédagogique individuelle à l'université pour augmenter mes talents en kinésiologie, justement, comme je disais, pour être en forme puis beau physiquement, pour aller faire des concours de beauté. C'est-à-dire qu'en médecine occidentale, la mode, c'est... on a un spécialiste pour tout, tu sais. Même si on a des médecins généralistes qui comprennent pas tout puis qui aident beaucoup, on peut aller chercher de l'aide spécialisée, individualisée. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que l'aide pédagogique individuelle m'a pas tellement aidé pour améliorer mes performances scolaires en 2016. Puis en 2023, j'ai découvert ce qu'un professeur de l'UQAM qui s'appelle Steve Masson fait en neuroéducation, qui m'a énormément aidé, qui a changé ma carrière, qui a changé ma manière d'apprendre en étudiant le contenu de ses cours. Puis en même temps, j'ai eu l'occasion de l'exploiter, ce que c'est que l'enseignement, faisait une mission humanitaire en Haïti à distance en enseignant psychologie clinique.
Et maintenant, tu veux quand même, tu veux éventuellement travailler de ça parce que tu étudies justement pour, en plus de ton expérience personnelle puis peut-être de tout le reste, tu veux intervenir comment en fait au niveau de la santé?
Je l'ai déjà fait, j'ai déjà pris des clients privés, j'ai déjà travaillé dans un organisme communautaire comme intervenant en santé mentale. J'ai déjà collaboré avec des intervenants pour développer leurs organismes. Mais le problème, c'est d'être rémunéré puis de manière stable puis de bien faire le travail. C'est-à-dire qu'il faut être disposé mentalement à offrir la même prestation au travail que quelqu'un qui a pas d'handicap, si on pourrait dire, au niveau mental.
Mais en même temps, tu as un peu un avantage, parce qu'on parle souvent de père aidant maintenant, des gens qui ont passé à travers différentes problématiques. Tu sais de quoi tu parles, là? Tu nous en parles depuis tantôt.
Mais père aidant, c'est pas du tout la même chose.
Non, mais dans le sens que tu peux avoir une approche que tu connais les plusieurs problématiques, fait que ça te donne un avantage pour quelqu'un qui a peut-être pas eu ces expériences-là.
J'ai l'occasion, effectivement, d'explorer plus que ma propre problématique, d'avoir rencontré des enjeux moi-même.
Ouais.
Freud a dit Si tu veux aider les gens, il faut que tu connaisses la vie. Et puis c'est vrai.
C'est simple.
C'est simple.
Mais c'est ça quand même.
C'est simple. Ouais. Et puis le film qui était en anglais, qui a été traduit en français, le dernier qui est disponible, le titre me passe de l'esprit, mais le dernier épisode, je crois, si je me trompe pas. Je l'ai vu en anglais et puis le film est fabuleux.
Ça parle un peu de ça, ce que tu viens de nous dire. En fait, ça montre ça.
Ça montre ça. Ça montre qu'il a connu la guerre. Ça montre qu'il y a eu des conflits spirituels avec d'autres gens.
Ouais.
Et puis, la mode, avant que la science soit optimisée sur la technologie, c'était les enjeux spirituels.
Ouais. Simon, c'est déjà tout. Ça a passé extrêmement vite, mais je veux te remercier pour ton témoignage. Je trouve que ça montre une histoire de vie, tu sais, réelle, qui est toi, qui a 41 ans, puis qui travaille, qui veut faire des choses pour améliorer sa vie puis améliorer la vie des autres. Merci beaucoup d'avoir été à l'émission. J'aimerais ça qu'on mentionne peut-être comment on peut te trouver. Tu es un peu sur les médias sociaux.
Vous pouvez me trouver sur Facebook, Simon Rien de Brouillard, sur LinkedIn. Encore mon nom.
Ouais.
C'est sûr que j'ai des doublons de compte parce que j'ai eu des problèmes d'identité, mais
en cherchant ton nom,
Mon nom, je sors facilement.
Parfait. Simon Riendeau-Brouillard, merci d'avoir été des nôtres. Merci pour ton partage puis pour ta générosité puis bonne chance surtout pour la suite.
Merci à vous.
Merci beaucoup. À la prochaine.
À la prochaine.
Vous écoutez le rendez-vous radiophonique hebdomadaire Folie douce, qui traite de santé mentale depuis 1991.
Nous poursuivons avec l'espresso allongé et le sujet, la question que tu as commencé à élaborer. Pourquoi jure-t-on? Pourquoi sacre-t-on?
Oui, pourquoi jure-t-on? Oui, c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « La petite histoire des sacres au Québec », particulièrement au Québec. Alors, c'est un article que j'ai trouvé sur le site Le Verbe, et écrit par un monsieur du nom de Simon Lessard, qui est journaliste. Alors, je continue ma lecture. Monsieur Lessard nous dit « L'historien René Hardy conserve l'idée d'une réaction du peuple québécois devant l'accroissement des contraintes issues du clergé, mais situe plutôt son origine après la défaite des patriotes autour des années 1840. En réaction à l'Église, nous dit M. Lessard, qui était trop traditionnaliste de Monseigneur Bourget, à l'époque, qui devient de plus en plus un agent de contrôle social, les bûcherons qui pratiquaient des concours de sacre dans leur camp forestier auraient ramené cette pratique à la maison. Le phénomène se serait ainsi répandu uniformément sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas facile à expliquer d'un point de vue linguistique avant l'arrivée des moyens de communication modernes. D'un point de vue linguistique, en revanche, cette théorie oblige à envisager la transmission en seulement une ou deux générations de plus de 400 mots de vocabulaire, ce qui est hautement improbable, puisque la création d'un si vaste champ lexical se produit généralement sur une période beaucoup plus longue. Pour Jean-François Joubert, qui a publié à compte d'auteur en 2002 le livre qui s'intitule « Le sacre du Québec », il faut remonter beaucoup plus loin pour expliquer le phénomène. La thèse qu'il défend dans son livre et qui ne fait pas l'unanimité a de quoi bouleverser notre conception de l'histoire même du Québec. L'opposition à l'Église catholique, qui se manifeste dans nos jurons, remonterait selon lui au temps de la colonie. Les premiers habitants de la Nouvelle-France n'auraient pas été d'aussi bons catholiques qu'on l'imagine. Le roi Henri IV, protestant d'origine, envoie Samuel de Champlain, lui aussi protestant, fondé Québec en 1608, possiblement afin d'en faire une porte de sortie tolérante pour ceux qu'on appelle les Huguenots, qui étaient disciples de Jean Calvin, fortement persécutés en France. Les premiers missionnaires se sont souvent plaints du manque de piété et d'instruction religieuse des premiers colons. L'historien François-Xavier Garneau avait déjà remarqué que les catholiques émigraient peu au Canada. Une importante proportion des arrivés en Nouvelle-France provenait des régions à forte concentration protestante. Une fois arrivés en Amérique, ils se mariaient et baptisaient leurs enfants à l'Église catholique parce qu'ils n'avaient pas vraiment d'autre choix. Ils devenaient ainsi catholiques sur papier, mais pas nécessairement de cœur. Parce qu'ils étaient obligés de pratiquer un culte auquel ils ne croyaient pas ou peu, ces colons faussement catholiques auraient fini par développer des jurons presque tous liés au culte sacramentel de la messe, que les protestants considéraient comme une cérémonie superstitieuse.
Il faut dire qu'avec les conditions de l'époque, il y avait, toutes les raisons étaient bonnes pour sacrer, parce qu'il faisait froid, il y avait des mouches.
Peut-être,
que ça devait être très dur. Possible.
Ah, sûrement que la vie était plus
difficile. Pas mal plus difficile.
Oui. Alors, M. Jean-François Joubert nous dit « Nos blasphèmes ont été créés comme outils d'expression de la dissidence contre les communautés religieuses catholiques. Ils se sont transformés en marqueurs identitaires par un peuple fatigué des persécutions religieuses et en situation de force en Nouvelle-France. Cette situation de force explique, selon lui, pourquoi ailleurs dans le monde, des protestants minoritaires n'ont pas développé de pareils jurons. Leur grand nombre aurait favorisé chez nous une plus grande tolérance à leur égard, accrue et maintenue ensuite par l'arrivée du régime anglais. En somme, que l'on situe très tôt ou très tard dans notre histoire l'origine des sacres, il semble qu'ils apparaissent toujours comme une sorte de refoulement d'une obligation à pratiquer le culte catholique. L'absence de contraintes religieuses à notre époque risque toutefois, sur quelques générations, de faire de nos jurons caractéristiques une espèce menacée d'extinction. » On entend parfois dire que ceux qui sacrent manquent de vocabulaire, comme ils n'arrivaient pas à trouver les justes mots pour exprimer leurs idées et leurs émotions. Mais pour le linguiste Jean-François Joubert, c'est tout le contraire. Nos jurons sont un aspect du vocabulaire des langues vivantes, et puisque la culture québécoise a longtemps été préservée par l'oral, il n'est pas étonnant qu'il soit si riche en ces mots normalement interdits à l'écrit. Selon Jean-Pierre Pichette, professeur retraité du département de folklore et d'ethnologie de l'Université de Sudbury et auteur du guide raisonné des jurons, chaque Québécois posséderait en moyenne un riche répertoire d'environ 130 jurons.
Ah bon?
C'est beaucoup. Je ne savais pas que j'en avais autant.
Non, passe pas.
Citant le frère dominicain Benoît Lacroix, le spécialiste remarque que si l'on remplaçait dans la langue des Français de France tout l'espace occupé par les mots « merde » et expressions du même genre, on s'apercevrait qu'en matière d'intensification, nous avons un vocabulaire plus riche que le leur. Mais je m'arrête ici.
Merci, Pierre. On va de toute façon mettre le lien de l'article dans notre section mentionnée à Folie douce sur le site web antenne.qc.ca. Merci beaucoup. Pourquoi jure-t-on?
Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Avant de terminer ce rendez-vous, deux fois les douze, Pierre, on va nommer les chansons qu'on a présentées cette semaine à l'émission.
Oui.
La première, Bouquet final.
Oui, de Vanessa Paradis.
On a présenté Minuit.
De Clémentine et Oscar Anton.
Dans la deuxième partie de l'émission, Ma route.
De Emmanuel Boucher.
Et à l'instant, Apophis.
De Choses sauvages.
Merci beaucoup pour ce choix musical et pour ton travail en régie.
Ben, bienvenue, mon cher.
Merci aussi pour ta question à l'espresso et à l'espresso allongé. Pourquoi jure-t-on? Mm-hmm. D'excellents textes que tu nous as relatés, entre autres sur les jurons au Québec. C'est fort intéressant. Merci pour ça. Notre collaboratrice Catherine Stassin est avec nous en début d'émission. Son sujet, la dépression chez les aînés. Et nous avions aussi notre invité Simon Riendeau-Brouillard qui nous a parlé de son parcours de vie. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.